Europe 1, il est midi. Le remaniement, c'est maintenant. Ce matin, Édouard Philippe a présenté la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, qui l'a accepté.
Et en substance, ce sont les termes d'un bref communiqué de l'Élysée qui a été envoyé peu après 9h. C'est donc une page qui se tourne dans ce quinquennat. Et tout cela dans un timing visiblement très resserré. Page spéciale dans cette Europe Midi. Avec les analyses de Jean-Rémy Baudeau et de Mickaël Darmon, nous irons à Matignon, où on a déjà vu des chariots de carton et des camions de déménagement arriver devant le portail. Invité de ce journal, Gérard Collomb, macroniste de la première heure, ancien ministre de l'Intérieur, et qui a fini par claquer la porte. Son opinion nous intéresse tout particulièrement.
Pratiquement de manière concomitante, Emmanuel Macron annonce dans la presse ce matin son attachement à la réforme des retraites. Il veut la poursuivre. Décryptage à suivre pour Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. C'est la surprise.
Surpris, en colère, oui, surtout.
La réforme des retraites se fera.
Ben non, on va tout faire pour qu'elle se fasse pas.
Dans ce journal également, vos départs en vacances, à la fois sur la route, aussi dans les gares. Et visiblement, vous avez le sourire.
Quand le jour arrive, on sent une libération, le corps lâche et dit enfin, voilà, c'est le paradis qui arrive.
Vous avez le sourire en tout cas.
Oui, je suis content, il fait beau.
Voilà, des premiers sourires sur l'autoroute A7. Et pour certains, les vacances, ce sera obligatoire. Certaines entreprises les imposent, d'autres au contraire les interdisent. Le soutien scolaire, jamais il n'a été aussi demandé. Entre les quelques zooms et les cours à distance, les élèves ne s'y retrouvent pas. Un document dans cette édition, nous partirons aux Maldives. Contre-exemple parfait de cette journée mondiale sans sac plastique. À la fin de ce journal, le foot, avec un club de Bordeaux sous tension. Et de la musique aussi, avec le nouveau CD de Grégory Porter. Funny you left me higher, out of the fire, out of the flames. Eh oui, ça fait du bien, la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Pierre, bonjour Elisabeth et bonjour, bonjour à tous.
Un temps calme avec encore quelques orages.
Oui, effectivement Pierre, et ça concerne les Alpes du Sud et les Alpes maritimes cet après-midi. De gros orages vont éclater avec de la grêle et des rafales de vent. Donc grande prudence dans le sud-est. Partout ailleurs, eh bien, le soleil reprend le pouvoir. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
A tout à l'heure Anissa, point complet juste avant 13h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Édouard Philippe a donc présenté la démission de son gouvernement ce matin.
Et nous l'avons appris aux environs de 9h par un communiqué de l'Élysée, communiqué laconique, hein, Jean-Rémy Baudeau.
Un communiqué de 3 lignes qu'on peut résumer ainsi. Édouard Philippe a remis la démission de son gouvernement et le président l'a accepté. L'Élysée a ensuite fait savoir qu'un nouveau Premier ministre serait nommé dans les prochaines heures. Nouveau, ça veut dire un autre, me confirme l'entourage du président. Tout s'est joué hier soir, le président et le Premier ministre se sont vus. Édouard Philippe a donc remis cette fameuse démission. Et l'entourage du président affirme qu'il y a eu un constat partagé qu'il fallait une nouvelle équipe. C'est donc bien une page qui se tourne. Le départ annoncé d'Édouard Philippe, on y reviendra évidemment tout au long de cette édition. Mais ça veut dire aussi que tout l'appareil gouvernemental est actuellement interrompu. Les ministres n'ont plus leur portefeuille. Les contrats des collaborateurs sont arrêtés. L'activité à l'Assemblée est aussi suspendue. C'est une nouvelle séquence qui s'ouvre.
Et sur le timing, que se passe-t-il maintenant? Quel est le process?
Eh bien, on attend en début d'après-midi le nom du nouveau Premier ministre, ou peut-être de la nouvelle Premier ministre. En tout cas, ce qu'il va savoir, c'est qu'il y a une période de consultation et surtout de vérification dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Toutes les personnes que le président veut avoir autour de lui seront scannées pour débusquer les éventuels conflits d'intérêts. Annonce du remplaçant d'Édouard Philippe, donc aux alentours de après 13h, en tout cas en début d'après-midi. Mais l'équipe gouvernementale au complet ne pourrait être annoncé que lundi ou mardi. Seule certitude au calendrier, c'est que Édouard Philippe sera donc dimanche nouveau maire du Havre et que mercredi prochain, le nouveau gouvernement remanié sera au Conseil des ministres.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
L'Élysée nous annonce l'arrivée d'un nouveau Premier ministre dans les toutes prochaines heures. Quel est le profil de ce nouveau chef de gouvernement?
Écoutez, quand on parle avec des proches du chef de l'État, et une chose est claire, le président veut reprendre le pouvoir, veut gouverner. C'est ce qui est expliqué parce qu'aujourd'hui, à donc 2 ans de la présidentielle, c'est lui qui doit être en avant. Donc il lui faut donc une équipe gouvernementale qui lui permette d'être en avant. Et au fond, que Macron fasse ou refasse du Macron, c'est exactement ce qui est expliqué. C'est la raison pour laquelle le profil de l'exécutant ou l'exécutante est plutôt mis en avant. Et ce qui correspondrait d'ailleurs à une évolution encore nouvelle, encore accélérée du poste de Premier ministre qui évoluerait encore plus vers une logique de directeur général, fondé de pouvoir, en tout cas, effectivement, plutôt un exécutant ou une exécutante.
Quels sont les noms qui circulent à ce stade, Mickaël Darmon? On va rester bien sûr très prudent.
Oui, bien sûr, parce qu'on sait toujours qu'avec Ce genre d'exercice, sont toujours des surprises, mais c'est vrai que cette semaine, quelques noms ont circulé qui pouvaient correspondre à ce profil, en particulier celui de l'actuel ministre des Armées, Florence Parly, qui aurait été contactée, qui a fait savoir très souvent en privé et vigoureusement ces derniers jours qu'elle n'était pas du tout candidate, que ce n'était pas pour elle. Un autre nom circule depuis quelques jours avec insistance, il s'agit de Jean Castex, qui était le monsieur déconfinement et qui est également encore d'ailleurs délégué aux Jeux Olympiques, délégué ministériel aux Jeux Olympiques, et qui pourrait à ce moment-là prendre donc cette place de Premier ministre. Mais pour l'instant, évidemment, les consultations continuent.
Et comme toujours, avec Emmanuel Macron, on ne sait jamais, Michael.
Grand spécialiste du coup de poker, de la surprise, donc on va faire attention.
Merci Michael Darmon, éditorialiste politique d'Europe 1, direction Matignon, où l'on retrouve Claudia Bertram. Vous êtes devant le portail fermé, qui parfois s'entrouvre, hein, de la résidence du Premier ministre. Et en tout cas, on sent que ça s'active, hein.
Oui, même pas une heure après l'annonce de la démission du gouvernement, on s'affairait déjà ici à Matignon avec les cartons de déménagement. On voit des agents en apporter depuis ce matin. On assiste aussi à un balai de voitures et d'utilitaires qui entrent et qui sortent de la cour. Et même si le successeur d'Édouard Philippe n'est pas encore connu, on prépare activement la passation ici. Effectivement, à travers la porte entrouverte, j'ai pu voir qu'un tapis rouge avait été déroulé sur le perron de l'hôtel de Matignon et deux micros ont été installés. Après plus de 3 ans au poste de Premier ministre, Édouard Philippe va donc déménager ses cartons au Havre. Il a été élu dimanche avec plus de 59% des voix et il sera officiellement installé dimanche.
Merci Claudia Bertram. Restez surtout devant le portail de Matignon car on vous retrouve tout à l'heure sur les coups de midi et demi.
Jean-Rémy, on va rester très prudent, mais l'avenir pour Édouard Philippe, c'est quoi maintenant ?
L'avenir, son avenir immédiat, c'est donc puisqu'il a maintenant remis sa démission, son avenir immédiat, c'est donc de passer la main à son successeur cet après-midi, en début d'après-midi. Pour la suite, on peut tout imaginer, on peut tout spéculer. Dans un premier temps, il est évidemment, comme je le disais, dimanche, maire du Havre, nouveau maire du Havre. Il retrouve cette ville qu'il aime beaucoup. On peut l'imaginer peut-être au régional, en Normandie. Ça deviendrait un bastion de la Macronie après son retour au Havre. Certains l'imaginent déjà aussi candidat à la présidentielle. Certains y travaillent en coulisses. Des boucles télégrammes Édouard Philippe 2022 existent. Je suis dedans, je les lis régulièrement. Mais pour tout vous dire, tout ça n'a pas beaucoup de consistance réelle. Édouard Philippe est quelqu'un qui a fait preuve d'extrême loyauté envers le président de la République ces dernières années. Il a travaillé en fidèle collaboration avec Emmanuel Macron. Et pour l'instant, rappelons quand même qu'il n'a pas beaucoup d'équipe aujourd'hui autour de lui. Il a des proches, il a des conseillers, il a des gens extrêmement puissants, mais d'une certaine manière, le jupéiste qu'il incarnait, eh bien tout ça, cette page, elle est aussi en train de se tourner, oui. Puisque même la mairie de Bordeaux n'est plus jupéiste. Et donc peut-être que c'est aussi une page politique qui est en train de se tourner, la fin du jupéisme. Et la question de savoir est-ce que le philippisme existe.
Avenir immédiat au Havre, mais avec la popularité qu'il a, un timing, on peut dire, en ce moment assez favorable, qui tombe à point nommé. Et puis il y a cette échéance dont vous parliez, à laquelle tout le monde pense.
L'échéance de la présidentielle. Il pourrait être un recours pour la majorité. C'est intéressant d'ailleurs de voir que ce matin, sur Twitter ou dans des boucles, certains autour de d'Emmanuel Macron, même ceux qui n'aimaient pas tellement, franchement, Édouard Philippe, louent sa loyauté et le fait qu'il restera au sein de la majorité. La réalité, c'est qu'effectivement, il pourrait être un recours, il pourrait être, grâce à sa popularité, mais sa popularité, elle est maintenant.
Oui.
Quelle sera sa popularité dans 6 mois? Et si Emmanuel Macron se met, lui, en campagne pendant les 2 prochaines années, c'est pas dit qu'il y ait un espace politique réel pour Édouard Philippe.
On posera la question au sondeur. Merci beaucoup, Jean-Rémy Baudeau. Il est midi 8.
Europe 1. Une première pause et dans un instant, on va entendre les toutes premières réactions de la classe politique après la démission du gouvernement d'Édouard Philippe. A tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneau, Elisabeth Assayag.
Et déjà, les toutes premières réactions dans la classe politique, Pierre.
Oui, à cette démission du gouvernement d'Édouard Philippe, en commençant par Christian Jacob, le président des Républicains. Écoutez ce qu'il disait sur ce sujet avant l'annonce de cette démission, puisqu'il était 8h15 ce matin sur Europe 1.
Avant de savoir qui on met à la barre du bateau, il est important de savoir où on va. Et vous pensez qu'il ne sait pas où il va ?
Bah, je pense.
Un nouveau chemin sans remettre en cause son cap.
Un nouveau chemin, enfin, c'est des phrases, je veux dire. Mais bon, concrètement, moi, je ne sais pas où le président de la République va. Donc, pour ce qui est de composer le gouvernement, on lui fait confiance. Vous savez, il ouvrira le bottin mondain, il va bien trouver du monde à mettre dans le gouvernement. Mais quel cap pour aller où ? Pour porter quelle réforme ? Voilà la situation. Et là, il n'y a pas de réponse dans l'interview.
Et il ouvrira le bottin mondain pour trouver des noms, dit Christian Jacob au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Autre réaction, celle du porte-parole du PS. Boris Vallaud, qui lui aussi critique la fameuse conduite de ce nouveau chemin.
C'est presque un exercice imposé dans la vie politique. Hein. Après une telle débâcle électorale, et qu'il n'y a même pas de précédent pour un parti présidentiel, il faut montrer, ou en tout cas essayer de montrer qu'on en tire des leçons. Donc c'était attendu. Alors à dire vrai, en ayant lu l'interview du président de la République dans la presse quotidienne régionale aujourd'hui, il devait donner un nouveau chemin avant de présenter de nouvelles têtes. Le nouveau chemin n'est pas au rendez-vous. Il ressemble beaucoup à ce qui a été fait depuis 3 ans. C'est ce que j'appelle un virage en ligne droite.
Et du côté du Rassemblement national, Sébastien Chenu qui ne voit pas non plus de changement dans la continuité.
On sent une certaine fébrilité de la part du président de la République à vouloir se débarrasser maintenant au plus vite d'un Premier ministre qui était devenu plus populaire que lui. Par conséquent, cette fébrilité, elle n'augure rien de bon pour le pays. On sait très bien que Édouard Philippe sera remplacé par un Premier ministre qui mènera d'ailleurs toujours la même politique qu'Emmanuel Macron. Et par conséquent, il n'y a aucun changement à attendre autre que sur la forme.
Le porte-parole du RN, Sébastien Chenu, avec Jean-Gabriel Bourgeois. Bonjour Jean-Christophe Lagarde.
Bonjour.
Président de l'UDI, comment est-ce que vous interprétez, vous, cette démission d'Édouard Philippe ?
Je crois qu'il va y avoir un tournant politique dans le quinquennat d'Emmanuel Macron et que ce tournant politique, en l'occurrence, n'est pas partagé par Édouard Philippe. On voit que l'idée de l'argent magique, c'est-à-dire de l'argent qu'on peut sortir sans qu'en réalité on soit capable de le financer, ça c'était vraiment pas la ligne d'Édouard Philippe. On sait qu'il y a eu souvent des frictions entre le président qui voulait dépenser, le Premier ministre qui faisait plus attention à l'avenir. Et puis il y a aussi sans doute un certain nombre d'orientations notamment en matière de réforme des retraites, etc., que Édouard Philippe ne partage pas. Donc je pense, moi, que la démission d'Édouard Philippe montre en réalité un désaccord au sommet de l'exécutif, et c'est la règle de la Ve République, quand le Premier ministre ne suit plus la ligne du Président de la République, on change de Premier ministre.
Mais est-ce que se séparer d'Édouard Philippe représente un risque politique pour Emmanuel Macron ?
Je ne suis pas convaincu que ce soit Emmanuel Macron qui se sépare d'Édouard Philippe. Et je pense que les semaines qui viennent vont nous montrer que c'est Édouard Philippe qui ne veut pas suivre Emmanuel Macron dans ce nouveau virage. Comme c'est quelqu'un de très loyal, d'abord moi je veux dire un mot sur Édouard Philippe. On a eu pendant 3 ans un Premier ministre avec lequel j'ai eu des désaccords, je ne suis pas dans sa majorité, mais un Premier ministre que personne ne connaissait et qui a montré son aptitude, sa capacité à gouverner la France et parfois à résister au Président de la République lorsque celui-ci pensait parfois plus à sa personnalité, à sa future campagne présidentielle qu'aux intérêts du pays. Eh bien, je pense que c'est ce qui est en train de se passer en réalité. Édouard a fait de grandes réformes. Il a admirablement
Par son prénom.
Oui, je le connais moi depuis longtemps, mais il a admirablement tenu le choc d'une crise qu'on n'avait jamais imaginée et jamais vécue. Il y a eu évidemment des erreurs dans la gestion de cette crise, mais enfin, globalement, les Français ont bien vu qui était le plus solide des deux, si je peux me permettre. Et donc, il retourne au Havre après avoir été brillamment réélu. Maintenant, qui sera le nouvel arrivant ? Je n'en sais strictement rien. Simplement, on voit bien que ça dessine un changement de ligne politique. Et si Édouard Philippe n'était pas d'accord avec cette ligne politique, il s'en va. C'est quand même bien de préférer ses convictions plutôt que de rester en poste. Il y a beaucoup de gens qui feraient n'importe quoi pour être ministre. Ouais. Voire Premier ministre, ce n'est pas son cas et je lui tire mon chapeau.
Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Bonjour Gérard Collomb.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes encore maire de Lyon jusqu'à demain. Mais si l'on vous écoute aujourd'hui, c'est parce que vous avez été l'un des plus fidèles au tout début de l'aventure En Marche. Vous avez été ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron avant de quitter ses équipes. Comment est-ce que vous aussi, vous interprétez cette démission d'Édouard Philippe ?
Je pense qu'Édouard Philippe peut être tenté de retourner au Havre, de gérer sa ville. Je pense qu'il vient de gérer la crise du coronavirus de manière tout à fait satisfaisante, que les Français ont adhéré à un discours qui était un discours à la fois de vérité, réaliste, et qui leur semblait adapté à la situation.
Attendez Gérard Collomb, vous êtes en train de nous dire que Édouard Philippe est fatigué et qu'il se retire à la campagne chez lui au Havre ?
Non, il se retire pas à la campagne, mais on peut avoir envie à un moment donné de passer à une autre étape pour préparer l'avenir.
Oui, une autre étape plus cruciale en 2022 ?
Ben, je ne sais pas si c'est en 2022 ou plus tard, mais enfin, je ne pense pas qu'il compte arrêter là sa carrière politique.
Mais c'est plausible, 2022 ?
Tout dépendra de ce qui se passera d'ici là. Si nous arrivons à vaincre la crise économique qui maintenant va être devant nous et que nous arrivons à repartir de l'avant, le président de la République a toutes les chances de pouvoir se représenter. Si jamais effectivement cela n'arrivait pas, Édouard Philippe devient évidemment quelqu'un qui est incontournable.
Est-ce que le prochain Premier ministre va clairement être dans l'ombre du président de la République ?
Je crois que déjà le président de la République, si vous voulez, était très souvent sur le devant de la scène. Mais il est clair maintenant que c'est lui qui va donner l'impulsion et qu'il n'y aura pas cette espèce de doublon entre président de la République et Premier ministre.
Mais c'était gênant pour qui le doublon, Gérard Collomb ? C'était gênant surtout
dans la période, si vous voulez, qu'on vient de vivre, en particulier, on va dire, dans les deux premières années, il n'y avait pas, à mon avis, de difficulté à ce qu'il y ait le président de la République d'un côté et puis le Premier ministre de l'autre, l'un qui donnait l'impulsion et l'autre qui traduisait en action gouvernementale l'impulsion donnée par le président. Mais maintenant, il va falloir accélérer les choses si le président de la République veut se trouver en situation de pouvoir se représenter et de pouvoir gagner.
Michel Darmon évoquait des potentiels successeurs comme Florence Parly ou Jean Castex pour succéder à Édouard Philippe. Avec un profil comme Jean Castex à Matignon, est-ce que l'on pourrait retourner à une forme d'hyper-présidence ?
On aura forcément un type de régime qui sera plus présidentiel. Et donc on va avoir le président de la République qui sera très en première ligne et quelqu'un qui gérera, on va dire, au quotidien les problèmes de la France et en particulier ses problèmes économiques.
Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron est déjà en campagne présidentielle pour sa réélection ? Et si oui, qui doit-il conquérir en premier ?
Je pense que la reconquête doit se faire dans tous les milieux, ce qui ne va pas être facile. Si effectivement nous avons une crise qui nous amène demain 800 000 chômeurs supplémentaires, c'est pas facile de reconquérir. Mais il y a un certain nombre de couches de la population. Ceux qu'on a vus en rupture avec le système, ceux qui... Les gilets jaunes, par exemple, qu'il va falloir reconquérir. Les territoires avec qui on doit à nouveau, comme il essaye de le faire d'ailleurs, essayer de retisser les liens.
Gérard Collomb, vous étiez parti de la place Beauvau. Vous aviez, on l'a tous commenté, claqué la porte. Vous ne l'aviez jamais vraiment dit. Est-ce que Édouard Philippe, vous avez l'impression que lui aussi claque la porte ?
En tout cas, on va dire qu'il prend peut-être un peu de liberté.
Comment est-ce que je dois interpréter ça, Gérard Collomb ?
Lorsque l'on n'est plus Premier ministre, évidemment, on a une attitude plus distanciée par rapport au gouvernement en place. On peut avoir peut-être une pensée plus libre, quoique je dois dire pour avoir vu, Édouard Philippe est toujours, par rapport au président de la République, dans une réserve totale et dans une fidélité totale.
Fidélité, réserve, ça veut dire qu'il ne critiquera jamais Emmanuel Macron désormais ?
Alors, je ne sais pas ce qu'il fera par la suite, mais par le passé, j'ai pu être témoin, effectivement, de, et c'est normal, de problématiques qui étaient abordées de manière un peu différente. Et donc, le Premier ministre se rangeait toujours à l'avis du président de la République.
Oui, et ça, vous l'avez constaté, malgré des tensions, on va dire.
Oui, bien sûr, mais in fine, il y avait toujours, si vous voulez, cette volonté du Premier ministre de suivre le président. Vous savez, moi je les voyais lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, le lundi matin je voyais le président et le lundi après-midi je voyais le Premier ministre. Donc je pouvais voir la façon d'appréhender les choses de l'un et de l'autre, et puis ensuite la façon dont les choses se passaient publiquement, et je voyais le grand respect qu'avait donc le Premier ministre pour ce que décidait le président de la République.
Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Gérard Collomb, d'avoir été en ligne avec nous dans Europe Midi.
Midi 22. Europe 1. Encore une pause et dans un instant, Emmanuel Macron se dit attaché à la réforme des retraites. C'était ce matin dans la presse régionale. On verra tout en détail avec Olivier Samin. À tout de suite.
Europe 1. Pierre de Villeneuve,
Elisabeth Assayag.
Et ce matin, dans la presse régionale, Emmanuel Macron prend la parole avec un mot d'ordre. Il veut faire sa réforme des retraites.
Oui, et parmi les personnes concernées, notamment les partenaires sociaux, c'est vrai qu'on espérait une sorte de délitement de ce dossier, à tout le moins une mise sur pause pour après l'été. Mais non, le président souhaite des réunions dès cet été. Olivier Samin, le calendrier est très rapide.
Oui, pas question de reporter cette réforme à l'après 2022. Ce sera l'un des chantiers du nouveau gouvernement, un chantier urgent puisque Emmanuel Macron veut qu'une concertation soit engagée dès cet été avec les partenaires sociaux sur le volet des équilibres financiers. Pour le chef de l'État, ce serait une erreur d'abandonner la réforme, notamment parce que, dit-il, les salariés de la deuxième ligne, dont on a beaucoup parlé au plus fort du confinement, les livreurs, les caissières, sont les perdants du système de retraite actuel et auront tout à gagner dans un système universel par points. Emmanuel Macron laisse par ailleurs entendre qu'il faudra actionner le levier de la durée de cotisation. Nous ne pouvons pas être l'un des pays, dit-il, où on travaille le moins en Europe. Alors ces propos sont très mal accueillis par les syndicats. Sur Europe 1 ce matin, le chef de file de FO, Yves Verrier, a exprimé sa surprise et sa colère.
Le président de la République nous dit en plein été, on va remettre sur le tapis le dossier des retraites. On a passé 2 ans et demi de concertation. Il n'a pas réussi ni à expliquer, ni a fortiori à convaincre. Et on risque aujourd'hui de réouvrir de la tension, un conflit social. On n'en a pas besoin en ce moment sur ce dossier-là.
Alors la position d'Yves Verrier est logique puisque FO fait partie depuis le début des syndicats qui réclament le retrait de la réforme. Mais la CFDT aussi, pourtant favorable à l'instauration d'un système par points, réagit très fermement à l'annonce d'Emmanuel Macron. Pour son secrétaire général Laurent Berger, débattre sur l'augmentation de la durée du travail serait une ligne rouge. Laurent Berger qui considère en outre que la priorité des priorités aujourd'hui, ce n'est pas la réforme des retraites, c'est l'emploi.
Merci Olivier Samin.
Et dans ce contexte social, c'est le choc pour les salariés d'Air France. La compagnie pourrait se séparer de 7500 salariés.
Les salariés qui sont fixés aujourd'hui, Emmanuel Dutheil, c'est le résultat d'un vaste plan d'économie de la compagnie.
Oui, la feuille de route est claire. Air France doit redevenir rentable et accélérer sa mue écologique. La compagnie va donc supprimer, officiellement pour des raisons écologiques, tous les vols au départ d'Orly qui sont à moins de 2h30 de train. Pour être très clair, c'était des lignes justement sur lesquelles Air France a déjà complètement perdu le combat par rapport à l'SNCF. Alors c'est fini pour quoi ? Eh bien c'est fini pour Nantes, Bordeaux et Lyon. Les lignes intérieures entre deux villes de province non rentables vont aussi être arrêtées. Alors là on peut citer par exemple Metz-Marseille. Ces suppressions de lignes concernent la filiale française Hop, la direction l'assure, les coûts y sont beaucoup trop élevés. Impossible de la redresser sans réduction drastique, assume-t-on en plus haut lieu. Alors en échange, et là ce sera une véritable révolution, la filiale low-cost Transavia va assurer des vols franco-français. Air France est aujourd'hui trop attaquée par les low-cost sur de nombreuses destinations comme le Paris-Toulouse. La compagnie doit donc réagir avec un produit adapté, dit-on en interne. Air France qui va aussi maintenir ses investissements dans ses nouveaux avions. Le but là, c'est de réduire une fois de plus le niveau de pollution, mais c'est surtout de revenir dans la course mondiale avec des cabines plus modernes.
Merci Emmanuel Dutheil, midi 28.
Europe 1.
Une nouvelle pause et dans la prochaine demi-heure de ce journal, l'information principale de la matinée, le gouvernement d'Edouard Philippe qui a présenté sa démission, un nouveau Premier ministre, sera nommé dans les prochaines heures, selon l'Elysée. Les toutes dernières infos avec Jean-Gabriel Bourgeois dans un instant. Dans le reste de l'actualité, les départs en vacances débutent officiellement ce soir. Bison Futé prévoit un trafic rouge dans le sens des départs en Ile-de-France et orange au niveau national tout le week-end. Le soutien scolaire, il n'a jamais été aussi demandé. Et on ira aux Maldives avec Guillaume Bié pour la journée mondiale sans plastique. Les Maldives, malades du plastique. Restez avec nous, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Pierre de Villeneau, Elisabeth Assayag.
Et je vous rappelle l'information principale de ce journal, la démission acceptée du gouvernement d'Edouard Philippe. Et nous repartons immédiatement à Matignon.
Oui, pour retrouver Claudia Bertram. Claudia, beaucoup d'effervescence hein, rue de Varennes et pour cette démission annoncée donc ce matin.
Oui, c'est un peu après 9h30 que l'Elysée a annoncé la démission du gouvernement d'Edouard Philippe par un communiqué très bref. Le Conseil des ministres qui devait se tenir à 10h et qui devait être le dernier avant que l'équipe gouvernementale soit remaniée a donc été annulé. Alors pour le moment, toujours pas de fumée blanche. On ne sait pas encore qui va succéder à Edouard Philippe, même si les préparatifs sont en cours ici à Matignon. Depuis ce matin, on voit des agents apporter des cartons de déménagement et la passation se prépare activement. Un tapis rouge a été disposé sur le perron de l'hôtel de Matignon. Deux micros sont installés. Parmi les noms qui circulent ces derniers jours pour succéder à Edouard Philippe, celui de Florence Parly, mais celui qui revient avec insistance, eh bien c'est celui du haut fonctionnaire Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement durant la crise. Selon nos informations, cet élu du Sud-Ouest en a informé ses proches ces dernières heures. Alors l'annonce du nouveau Premier ministre sera officielle cet après-midi vers 15h. Et dans les prochains jours, eh bien, le nouveau Premier ministre devra former un nouveau gouvernement avec Emmanuel Macron. Seule certitude, la nouvelle équipe gouvernementale sera réunie mercredi prochain pour le Conseil des ministres.
Merci Claudia Bertram en direct de Matignon pour Europe 1.
Et ce vendredi est synonyme pour beaucoup d'entre vous avec les départs en vacances.
Et vous le savez, Covid oblige, les Français privilégient beaucoup la voiture cette année pour leurs déplacements. Jean-Luc Boujon, vous vous trouvez sur l'aire d'autoroute de Solèze, juste après Lyon, sur l'autoroute A7, comment on apprécie ces premières heures de congé? Est-ce qu'il y a du monde déjà?
Bah écoutez Pierre, on est vendredi, on n'est pas encore dans le Grand Rush, mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu moins de monde qu'une autre année. Il n'y a pas excessivement de monde sur les parkings et surtout je vois très peu de Belges et de Néerlandais alors qu'ils sont souvent nombreux sur l'A7 à cette période-là. C'est peut-être un signe. Alors il y a quand même des vacanciers qui partent évidemment, c'est le cas par exemple de Christian et de sa femme, parisiens, qui ont renoncé à leur voyage en Grèce pour préférer un hôtel à hier cette année. Peu importe, partir, ça fait du bien.
C'est une libération. Il y a eu une période de stress qui était quand même très forte. Et puis, on ne savait pas grand-chose. Est-ce qu'on pouvait partir? Est-ce qu'on ne pouvait pas partir? Donc, en fait, quand le jour arrive, on sent une libération. Le corps lâche et dit, enfin, voilà, c'est le paradis qui arrive.
Vous avez le sourire, en tout cas.
Oui, je suis content. Il fait beau, en plus.
Je vois que vous avez le masque autour du cou. Vous en avez plein dans la voiture?
150. On est vraiment très précautionnés.
Alors le voyage dans la famille, c'est la solution qui semble devoir être privilégiée cette année. Et même là, il faudra faire attention, estime Daniel, qui va à Nîmes depuis la Lorraine.
On ne pensait pas pouvoir y aller, et puis finalement, en respectant les barrières sociales, on peut y aller quand même, donc on en profite. Quoi.
Ça va être quoi les limites? Alors, pas d'embrassade?
Pas d'embrassade, si on va dans, où il y a beaucoup de monde, mettre un masque, une chose comme ça. Quoi.
Est-ce que trinquer, on a le droit?
Je pense que oui quand même. Si personne n'a encore bu dans le verre, d'accord, on peut trinquer. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème.
Voilà, donc on peut compter sur les Français en vacances pour en profiter. Le plaisir et la détente sans prendre de risques, ce devrait être les maîtres mots cette année.
C'est bien entendu. Merci Jean-Luc Boujon en direct de l'aire d'autoroute de Solèze sur l'autoroute A7.
Et peut-être que vous irez au Sable d'Olonne cet été.
En tout cas, si vous choisissez cette destination, sachez que vous apprécierez le soin qui a été apporté par les autorités pour que le virus ne se propage surtout pas, et ce même si ça doit pénaliser un peu le tourisme local. Reportage de François Coulon.
Il n'y a pas spécialement de masque, c'est comme si de rien n'était. J'ai l'impression que c'est vraiment derrière nous.
Un été en apparence comme les autres, Sable d'Olonne, et pourtant tout a changé. Bars et restaurants ont gagné du terrain sur les trottoirs et sur le sable pour cause de distanciation sociale. En revanche, 4 fois moins de tentes de plage que d'habitude et 2 clubs Mickey mis en sommeil. Contraintes sanitaires trop lourdes, Olivia, elle, va louer et désinfecter chaque jour 40 transats au lieu de 50.
Avant, les gens, s'ils voulaient se mettre sur le transat du voisin, il n'y avait pas de souci. Là, cette année, c'est interdit. La mairie nous a dit que c'était à nous de faire respecter toutes ces normes de sécurité. On va faire la police. On rigole pas, parce que sinon, ils peuvent nous faire fermer.
C'est surtout le soir que l'effet Covid se fait cruellement sentir. Plus de musique ni d'animation sur le remblai. Éric Le Floc, directeur des services de la mairie.
Vous ne pouvez pas avoir un rassemblement de plus de 10 personnes. C'est le regroupement qui est aujourd'hui interdit. Et c'est ça qui est très difficile pour nous. Nous, on aime faire la fête et on en est privé.
Le feu d'artifice du 14 juillet devrait lui aussi passer à la trappe. Les Sables d'Olonne, François Coulon, Europe.
Et nous vous le disions, le timing de ce remaniement est très, très resserré. Et voilà que l'Élysée, Jean-Rémy Baudeau, nous annonce la nomination de Jean Castex en tant que Premier ministre.
Et le Premier ministre, le nouveau Premier ministre français s'appelle donc Jean Castex. Il a 55 ans, il est originaire du Gers. C'est un haut fonctionnaire et qu'il est clairement inconnu du grand public il y a encore 3 mois. En fait, il s'est retrouvé dans la lumière lorsqu'il a été chargé de la stratégie du déconfinement début avril. C'est le monsieur déconfinement du gouvernement. Il a participé à tous les conseils de défense depuis. C'est notamment comme ça qu'il s'est rapproché du président de la République. Cette mission du déconfinement a été considérée comme réussie par l'Élysée. Jean Castex, qui connaît parfaitement les arcanes du pouvoir puisqu'il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée entre 2011 et 2012. C'était sous Nicolas Sarkozy. C'est donc un homme qui, historiquement, est plutôt étiqueté à droite. Mais c'est surtout un poste stratégique à l'Élysée en lien permanent avec Matignon. On peut donc dire que Jean Castex, il est directement opérationnel. Il connaît toute la machine. Et puis, il y a une autre ligne qui est importante sur son CV. C'est comme Édouard Philippe, c'est aussi un élu local de droite, un conseiller régional et départemental dans le Languedoc jusqu'en 2015. Il est aussi maire de la ville de Prades dans les Pyrénées-Orientales. Il coche donc beaucoup de cases, même si en le choisissant, Jean Castex, eh bien, le président ne renverse pas la table. Il choisit un nouveau Premier ministre dont le profil est assez proche d'Édouard Philippe.
Alors avec la nomination de Jean Castex, est-ce que cela signe le retour d'une forme d'hyper-présidence d'Emmanuel Macron ?
C'est en tout cas une forme de gouvernement où le président de la République va avoir toute la lumière, puisqu'il a nommé un Premier ministre qui est plutôt un technicien, un exécutant, qui va mettre en place une stratégie de gouvernement autour certainement de plusieurs objets politiques pour la fin du quinquennat, peut-être 4-5 objets politiques. Ce matin, dans son interview dans la presse régionale, Emmanuel Macron parlait de la question du Ségur, de la question du grand âge, de la question de la jeunesse, au-delà même de la question de la relance économique et de la question écologique. Donc, il y aura une feuille de route précise pour Jean Castex, qui sera donc l'exécutant, et Emmanuel Macron sera donc le président qui va chapeauter tout ça. Ce sera un peu l'hyper-président. Emmanuel Macron en première ligne pour les 2 prochaines années. Certains diront qu'Emmanuel Macron est déjà en campagne. Un ministre me disait l'autre jour, on est reparti en septennat, imaginant que Emmanuel Macron pourrait ainsi rempiler en 2022.
Merci Jean-Rémy Baudeau à 12h39 sur Europe 1. La démission du gouvernement d'Édouard Philippe ce matin acceptée par Emmanuel Macron et donc à l'instant la nomination de Jean Castex à Matignon en tant que Premier ministre. 12h39.
Europe 1. Une pause et dans un instant, les entreprises qui imposent des calendriers de vacances après le confinement. Et on ira aux Maldives avec Guillaume Bier pour la journée mondiale sans plastique, les Maldives malades du plastique. A tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve,
Elisabeth Assayag.
Les vacances démarrent officiellement ce soir et voici que certaines entreprises imposent de prendre ces vacances maintenant.
Oui, ou le contraire, ça dépend des secteurs. Élise Dangean, la loi sur l'état d'urgence a en effet permis aux entreprises d'adapter leur calendrier.
Absolument. La Société Générale, par exemple, encourage ses salariés à poser un maximum de leurs congés et RTT avant la fin de l'année. Passé ce délai, ils seront perdus car cette année, la possibilité que les salariés avaient jusque-là de placer leurs jours non pris sur un compte épargne-temps est supprimé. C'est l'une des clauses de l'accord de sortie de crise Covid signé le 18 juin dernier. Le message adressé aux salariés de la banque est clair. Ne gardez pas vos jours pour plus tard. Prenez-en beaucoup tout de suite. Autrement dit, dès cet été, car on aura besoin de vous à la rentrée au moment du redémarrage espéré de l'activité. Chez Renault, la logique est au contraire de réduire les vacances d'été. Les salariés de Sandouville, par exemple, n'auront finalement que 2 semaines de vacances cet été. Objectif, rattraper une partie de la production perdue. Mais alors, qu'en sera-t-il dans les autres usines françaises du groupe ? Réponse vers la mi-juillet, au vu, dit la direction, de l'évolution du marché automobile et des délais nécessaires pour les travaux de maintenance.
Merci Élise Dangean. Voilà donc pour ceux aussi qui passeront l'été à travailler. Et ils ne seront pas seuls, car les enfants, en majorité Elisabeth, eux aussi ils vont plancher.
Mais oui, car pendant le confinement, l'enseignement a été très inégal d'un élève à l'autre. Certains enfants n'ont eu qu'une séance de Zoom et des mails d'encouragement. D'autres, en revanche, ont pu plus ou moins suivre le programme. Devant ces trous à combler, les parents ont préféré jouer la prudence. Et une chose est sûre, Marion Calais, ils misent sur des vacances studieuses.
Exactement comme Sandrine pour sa fille qui va rentrer en quatrième et qui devrait être sur le pont dès la fin de l'été.
Sur certaines matières, c'est nécessaire pour que dès la première semaine, tout ça se remette bien en place et qu'ils repartent sur un bon pied.
Comme cette maman qui a déjà dépensé 360 euros pour deux stages de 10 heures en petit groupe pendant le confinement, nombreux sont les parents qui ciblent cette période de pré-rentrée.
Les semaines du 17 et 24 août, on voit une augmentation de plus de 30% des inscriptions à date.
Philippe Colléon est le président d'Acadomia.
On voit par exemple très forte augmentation de l'anglais parce que certains élèves qui partaient en Angleterre ou aux États-Unis ne peuvent pas partir. Il y a vraiment ce souci que l'élève ne décroche pas.
Un décrochage contre lequel le gouvernement se mobilise aussi. Plus de 150 millions d'euros vont être engagés pour financer les cours de soutien proposés dans les écoles ouvertes et pour les colos apprenantes qui visent à allier loisirs et apprentissage tout au long de l'été.
Merci Marion. Calais.
Et si l'on vous parle de vacances, vous pensez peut-être au sable fin, à une mer turquoise. Ça, c'est en Maldives.
Ce sont les Maldives, mais vous savez que la face cachée des Maldives, c'est l'une des nombreuses îles qu'on nomme d'ailleurs l'île poubelle. Les Maldiviens y entassent des montagnes de déchets. Cela montre à quel point la gestion du recyclage du plastique, tout particulièrement, est un problème.
Et oui, Europe 1 a pu se rendre sur cette île. Pollution quotidienne pour les habitants et inaction des autorités. Reportage signé Guillaume Bier.
C'est une immense montagne où s'entassent les déchets qui brûlent, avec de la fumée en permanence. C'est comme ça.
Rachid est fataliste devant le point culminant des Maldives. Une montagne de détritus haute comme un immeuble de 8 étages, une décharge à ciel ouvert grande comme 15 terrains de football. Bienvenue à Tilafushi, littéralement l'île poubelle. Chaque jour, des dizaines de gros bateaux y déversent 1500 tonnes de déchets venus des hôtels et de la capitale. Une odeur insupportable de plastique qui se consume au soleil, une fumée nauséabonde dans laquelle vit Tohil.
C'est difficile pour nous de respirer ça. Ça abîme nos moteurs de scooter aussi. De toute façon, moi, je mets un masque quand je passe près d'ici.
Le recyclage est quasi inexistant aux Maldives, où les bouteilles d'eau sont partout, celle du robinet n'est pas potable. Pour Sarah, une expatriée, la pollution plastique est un vrai fléau.
On sort de chez soi pour essayer d'aller se baigner. On constate immédiatement qu'il y a un nombre de déchets invraisemblable sur la plage. Donc, il suffit de se baisser, de ramasser un sachet plastique. Et en 5 minutes, vous avez un sac poubelle plein. Par exemple, vous partez en bateau et les déchets qui ont été accumulés pendant la journée, pendant un pique-nique, par exemple, sont rejetés dans l'eau. C'est incompréhensible.
Le paradoxe d'une population qui pollue elle-même son propre paradis. Les mentalités changent très lentement, sous l'impulsion de quelques ONG qui sensibilisent les enfants dans les écoles. Aux Maldives, Guillaume Biet, Europe 1.
Et retrouvez les images vidéo qu'a tourné Guillaume qui sont totalement édifiantes sur notre site europe1.fr, d'autant qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans sacs plastiques. Nous les utilisons 20 minutes en moyenne et une fois jetés dans la nature, ils peuvent mettre 4 siècles avant de se désagréger. Donc pensez-y avant d'en prendre un. Les Français sont une majorité à être choqués par les images de poules en batterie, de truies en cage. Ces vidéos, vous le savez, qui sont notamment diffusées par le laboratoire L214. Et si cette indignation se traduisait en actes, c'est ce que se sont dit en substance un groupe annoncé de grands patrons d'associations, de personnalités telles que Xavier Niel, le patron de Free, Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, le reporter Hugo Clément. Tous lancent un référendum d'initiative partagée pour les animaux. Virginie Salmen.
Hugo Clément ou le patron de Free, Xavier Niel, promettent d'y mettre toute leur énergie, leur argent et leur réseau. Ils ont déjà fait rédiger la proposition de loi par des juristes spécialisés. Il y a 6 mesures radicales, notamment l'interdiction d'élever des poules en cage d'ici 2025 et un gros morceau, l'interdiction de l'élevage intensif d'ici 2040. Un grand patron comme Xavier Niel, qui porte les messages de L214, est-il à l'aise avec ça?
Certains ont des méthodes plus extrêmes. Je suis peut-être là aussi aujourd'hui grâce à ces méthodes extrêmes, parce que c'est notamment L214, des gens qui m'ont ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. Moi, je trouve que c'est de l'activisme qui a ses qualités pour démontrer un certain nombre de problèmes sur lesquels, notamment, le pouvoir politique n'ouvre pas les yeux.
Et pour le reporter Hugo Clément, c'est un élan populaire, mesuré depuis des mois par des sondages, pas une initiative de people.
L'écrasante majorité des Françaises et des Français, qu'ils habitent en ville, qu'ils habitent à la campagne, sont favorables aux mesures qu'on présente aujourd'hui. Et ça fait des années que les gouvernements successifs ne font rien pour les animaux.
Pour que ça se fasse, ils vont maintenant devoir convaincre au moins 185 députés ou sénateurs de porter leur proposition de loi pour qu'un référendum puisse se tenir. Et au
au moins 4,7 millions de Français devront voter pour.
Virginie Salmen, et je vous rappelle l'information principale de ces dernières minutes, Jean Castex est nommé Premier ministre à Matignon en remplacement d'Édouard Philippe qui, lui, dans un avenir proche, rejoint la mairie du Havre. Midi 48.
Europe 1. Une nouvelle pause et dans un instant, le foot avec un club girondin sous tension et de la musique avec le nouveau titre de Grégory Porter. À tout de suite.
Europe 1. Pierre de Villeneuve, Elisabeth Assayag.
Le foot avec un autre feuilleton que celui de l'Olympique de Marseille.
Oui, ça change. Hein. Et ce feuilleton, il se situe à Bordeaux, où la situation n'est pas plus envieuse qu'à l'OM. C'est bien simple, Cyril de la Morinerie. Ni l'entraîneur, ni les supporters, ni même le nouveau maire de Bordeaux ne sont contents de la gestion du club.
Oui, depuis qu'M6 a vendu le club à un fonds d'investissement américain King Street, rien ne va plus. C'est 18 mois de turbulence. D'abord un club qui végète, 12e de Ligue 1 cette saison est endetté. On est loin du Bordeaux de Laurent Blanc, qui avait remporté le titre de champion en 2009. C'est aussi deux changements de président en moins de deux ans. L'emblématique Jean-Louis Triaud a laissé sa place à l'énigmatique Joseph Dagrosa, puis au fantomatique Frédéric Longuépé. Ce dernier cristallise aujourd'hui toutes les rancœurs. Pierre Urmic, qui vient d'être élu maire de Bordeaux ce matin, souhaite d'ailleurs son départ. Il l'a confirmé à Stéphane Place lors de son installation.
Ce que je veux, c'est une nouvelle direction du club des Girondins. J'étais assez content parce qu'ils ont vraiment réalisé qu'ils auraient un maire de Bordeaux qui s'ingérera dans les dérives du foot business. Je suis très content qu'il ait perçu comme tel. Pour ça que je leur ai immédiatement répondu qu'il fallait qu'il commence à s'habituer.
Et une instabilité qui a fait fuir l'entraîneur Paulo Souza a démissionné. Le club a officialisé entre-temps un nouveau logo qui n'a fait que renforcer la colère des supporters. Ils étaient plus de 2000 le week-end dernier à manifester devant l'hôtel de ville pour demander le départ de la direction.
Merci Cyril de la Morinerie.
Et maintenant on part à Roland-Garros dont Europe 1 est la radio officielle. Eh bien Roland-Garros aura bien une édition en public fin septembre.
L'organisation du tournoi a obtenu le feu vert des autorités pour accueillir donc des spectateurs avec port du masque obligatoire dans les tribunes et dans l'enceinte. La billetterie sera mise en place dès jeudi prochain pour les licenciés de la Fédération française de tennis et pour le grand public. Ça sera le 16 juillet. Les conditions sanitaires obligent bien évidemment Roland-Garros à s'adapter, comme l'a rappelé ce matin Jean-François Villotte, le directeur général de la FTT, organisatrice du tournoi.
Il faut de l'humilité quand on prépare un événement de cette importance dans le contexte actuel, mais nous avons créé les conditions de pouvoir l'organiser. Nous avons l'espoir, la chance, et nous l'avons un peu préparé et suscité, de pouvoir jouer avec du public. Une jauge réduite pour que tous les gestes barrières puissent être respectés, mais une jauge cependant importante. Les premiers jours du tournoi, environ 20 000 spectateurs, et puis le jour de la finale, 10 000. Pour bien comprendre, dans une journée de finale normale du tournoi de Roland-Garros, c'est environ 20 000 personnes qui sont dans le stade. C'est ce que nous aurons comme public au début du tournoi. Oui. Donc nous aurons beaucoup de fluidité et de circulation.
Jean-François Villotte, le patron de la FFT, la Fédération française de tennis, ce matin sur Europe 1.
Allez, on termine en musique et on va monter les sons et vous allez entendre, ça va vous faire du bien.
Ouais, l'incontournable jazzman Grégory Porter sort un nouveau disque et un beau moment sur Europe 1 dans Periscope. C'était ce matin, rencontre avec le musicien signé Jean-Philippe Ballas. Bonnie, you lift me high. Un jour, ma mère m'a donné ce conseil. Il faut toujours comprendre ce que tu chantes. Croire en ce que tu chantes. Je me vois comme un chanteur de jazz qui utilise le gospel, la soul, le blues, la nuance. C'est comme ça qu'on raconte une histoire.
D'où vous vient ce sourire que vous avez là accroché en permanence?
Ce sourire vient de tous ces voyages sur les scènes du monde entier, raconter la vie et surtout l'amour. Il m'a fallu du temps, vous savez, au moins 20 ans, à jouer dans des clubs, des petits restaurants. Aujourd'hui, je me sens le chanteur le plus chanceux au monde.
Let me be the one that is naive. Grégory Porter, qu'est-ce que vous pourriez chanter là, maintenant, aux auditeurs d'Europe 1 qui commencent leur journée?
Oh,
what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Thank you so much.
My pleasure. Thank you.
Thank you for making a place for me. Opening my eyes and now I see. Thank you.
Nouvel album de Gregory Porter et le Périscope à réécouter bien sûr sur europe1.fr. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Emmanuel Macron a nommé Jean Castex au poste de Premier ministre en remplacement d'Édouard Philippe et l'a chargé donc de former un nouveau gouvernement. Jean Castex, 55 ans, ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy, maire Les Républicains de Prades. Il est depuis avril le délégué interministériel chargé du déconfinement.
Merci Pierre de Villeneuve. On vous retrouve dès lundi hein,
oui.
Dans la matinale d'Europe 1. Rendez-vous 6h30, 9h lundi.
6h30 pour la matinale d'Europe 1. Merci Elisabeth. Et merci à tous pour ce bel Europe Midi que nous avons conduit tous ensemble. Merci à la confiance que m'a accordée Donavi Dalrevel, le patron de l'information d'Europe 1. Merci à toutes les équipes.
Et c'est le moment de la météo avec vous Anissa Haddadi. Encore des orages cet après-midi.
Eh oui, on n'en a pas fini Elisabeth avec ces orages puisque ça concerne le sud-est du pays cet après-midi avec sur les Alpes du Sud, les Alpes-Maritimes et la Côte d'Azur des orages qui pourront être assez violents par endroits avec de la grêle, encore de la grêle et du vent. Les rafales de vent qui pourront atteindre les 90 km/h, donc grande prudence si vous nous écoutez dans les Alpes-Maritimes cet après-midi. Sur le nord-est de la Corse, il pleut également. Et puis au bord de la Méditerranée, il va faire beau cet après-midi. Mais attention, le Mistral et la Tramontane soufflent assez fort. Surtout le reste du pays, eh bien, le temps est calme et enfin ensoleillé. Bon, c'est toujours un peu frais. C'est toujours un peu frais pour un 3 juillet. Cet après-midi, nous aurons seulement 18 à Brest, 19 à Cherbourg, 22 à Saint-Étienne-Lille, Clermont-Ferrand et Biarritz, 24 à Angoulême, 25 à Paris, 29 à Marseille et 30 pour Nîmes. Allez, patience encore.
Non, mais c'est bien 25 à Paris. Hein. Moi,
oui,
ça me va, hein.
C'est convenable. On aura quelques passages nuageux, mais à partir de la semaine prochaine, c'est la fête.
Merci, Anissa.